Je ne suis pas un paysan, moi. Je suis un gestionnaire. On les voit, mes 400 hectares. C'est nickel. Il n'y a plus rien. Ah ouais, il y avait les sauterelles, les coccinelles. Il n'y a plus une herbe, plus un animal. Rien. Avec le Xerox 3000. Ah, ça, ça te nettoie tout.
En fonction donc des grands prix qui sont prévus pour l'exposition, c'est-à-dire grand prix d'honneur des grandes races, des races moyennes, etc., les juges décident, voilà, de toutes les races de ces catégories, c'est celui-ci qui est le meilleur.
Ça, c'est une recette du pays. Ça s'appelle la fougue.
La fougue.
Et c'est quoi qu'il y a dedans, là?
Ah, ben ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année.
Vous étiez là? Bah oui. Je vous ai pas entendu entrer.
Ah, c'est l'avantage de la moquette, par rapport au poil de vache. On n'entend rien.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement sur le stand de la MSA, donc France Inter, au salon de l'agriculture, avec Pascal Vestrelin, Stéphane Poitvin et Philippe Etienne à la technique aujourd'hui, et assisté de Aude Émilie Judaïque, c'est Christophe Humbert qui réalise l'émission. Qui va débuter bien sûr par une petite humeur, parce que s'il est un fleuron de l'économie française, eh bien c'est bien son agriculture, et ça date pas d'hier, hein, son jeu au petit persulis avec ses labourages et pâturages qui sont venus incarner durablement les attributs d'une sorte de top modèle bien de chez nous, imposant cette image de la plantureuse fermière à un pays tout entier. Ce sont donc des générations et des générations de paysans qui ont façonné le territoire, défrichant les forêts, toujours suspecte d'héberger quelques fauves ou quelques maléfices, les remplaçant par de jolis champs de blé ou d'orge ondulant sous la caresse du vent. Et ces paysans ont donc couvert de vignes les coteaux, semé des vaches, des moutons sur des prairies qui, sans ces bestioles, seraient demeurées un rien tristounette, n'en déplaise aux végétariens. Et puis, estimant sans doute que paysan n'était pas un terme assez empreint de noblesse, un jour, quelqu'un a eu l'idée géniale de le rebaptiser « exploitant agricole ». Alors là, ça sonnait tout de suite beaucoup plus moderne. Soudain, le sol a pris ses distances avec la terre nourricière. Il n'est devenu qu'un support, avide de nitrates, une éponge à pesticides. De quoi inventer de nouveaux slogans publicitaires du genre « pas de patates sans phosphate ». Alors aujourd'hui, les agriculteurs sont soumis à de nouveaux défis, hein, faut le dire, alors qu'ils sont de moins en moins nombreux. Il leur faut nourrir une population qui ne cesse de croître, tout en devant prendre soin d'y aller mollo sur les intrants, parce que figurez-vous que notre bonne vieille terre ne se remet pas vraiment de l'indigestion causée par la précédente révolution agricole. Oui, à l'heure d'un développement que l'on voudrait durable et qui a encore un peu de marge de progression, il faut déjà commencer par abandonner, en tout cas changer des pratiques qui ont la vie dure, car dans le milieu agricole, eh bien, tout le monde n'a pas encore fait la paix avec les insectes auxiliaires traités comme n'importe quel ravageur. Et même quand un vigneron bourguignon adepte de la biodynamie décide de ne pas passer ses vignes au rouleau compresseur du tout chimique, précisément afin de préserver cette biodiversité qui lui rend de fameux services, eh bien patatras, ce sont les foudres préfectorales qui lui tombent dessus. Il faut dire qu'on ne rigole pas non plus dans la lutte contre la flavescence dorée, hein, mais si on zigouille la cicadelle, eh ben, on mitraille tout le reste du vivant en même temps, abeilles en tête. Il faut dire qu'elles sont quand même très décourageantes, hein, les abeilles, absolument toujours à se plaindre des pesticides, des néonicotinoïdes. Elles n'ont qu'à s'adapter une fois pour toutes. Hein, et s'il n'y en a plus, on pollinisera à la main, comme en Chine, ça donnera du travail. Pour revenir à Emmanuel Giboulot, viticulteur de Beaune, bien relayé par les réseaux sociaux, bah oui, si on veut finir, ne risquer de ne pas finir embastillé, on doit payer la dîme à ce nouveau clergé que sont les vendeurs d'insecticides. Alors il faut dire que l'INRA, qui est l'Institut National de la Recherche Agronomique, caution scientifique du monde agricole, se méfie de l'agriculture biologique comme un lapin de la myxomatose, on l'a vu récemment, même si ça a été monté en épingle. À une époque, l'INRA ne ratait pas une occasion de distribuer une volée de bois vert à toute amorce de voies parallèles qui conduisait vers moins de productivisme, mais heureusement, tout ceci a bougé au sein de l'INRA. La contestation s'est fait sentir, on a beaucoup évolué, nous en parlerons avec le directeur scientifique de l'environnement ici présent. Et dans agriculture, ce que l'on va retenir, c'est qu'il y a culture, ce qui signifie qu'une somme considérable de savoir-faire et de savoir tout court de nos amis paysans, des scientifiques et d'autres personnes existe et ne demande qu'à être partagée. Sans échange, on le sait, il n'y a pas de progrès. Et avouez qu'il serait dommage de juste regarder passer le train de cette modernité qui pourrait bien redonner ses lettres de noblesse au beau et indispensable métier de paysan. Après tout, c'est vrai que ici, dans cette arche de Noé, aux couleurs et aux senteurs de presque campagne, eh bien, on ne va pas bouder notre plaisir avec nos différents invités, voilà, même si certains sols sont en mauvais état. Et donc, nous en parlons avec nos quatre invités que je vous présente dans quelques instants. Alors, il y en a un que vous connaissez, c'est Frédéric Denry. Cher Frédéric, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Alors, Frédéric, en fait, vous intéressez aussi à l'agriculture ainsi que de très nombreux sujets hein, sur l'environnement. Vous intervenez régulièrement dans cette émission et vous aviez écrit Quelle France en 2030, il y a quelques années. C'était d'ailleurs un polar d'anticipation et dedans, il y a tout un chapitre sur l'agriculture. Ce qui est très intéressant, peut-être dans une phrase d'abord, c'est de montrer toute l'évolution qui est parfaitement réelle du monde paysan aujourd'hui.
Oui, c'est une évolution formidable. Je travaille en ce moment sur les sols pour un projet de bouquin. Et j'ai des agriculteurs au bout du fil, des chercheurs, des économistes, parfois des philosophes. C'est le monde, c'est le monde qui change le plus. C'est-à-dire, je ne rencontre plus depuis quelques années un agriculteur. Il n'y a plus d'agriculteurs qui sont tout chimiques, tout pesticides, tout tracteurs 350 chevaux. Ça n'existe plus. Il y a à la fois des contraintes économiques, il y a des contraintes sociétales, comme on dit de nos jours. C'est-à-dire que la société n'accepte plus autant de déprédation des sols et environnementale. Il y a une vraie interrogation qu'ont les agriculteurs sur l'essence même de leur métier. Et on sent bien qu'ils essayent d'allier comme ils peuvent la productivité qui les a poussés vers... ça les a sortis de la pauvreté quand même au lendemain de la guerre.
Et ça nous a nourris aussi.
Il faut quand même jamais oublier ça. Donc essayer d'allier la productivité avec la recherche de qualité. En gros, c'est finalement trouver le meilleur moyen sans rien abandonner du confort, sans rien abandonner de cette productivité, c'est retrouver les sols. C'est une agriculture qui veut se remettre dans le sol. Mmh. C'est un peu une révolution philosophique pour beaucoup, mais on y va. En tout cas, il n'y a plus. Enfin, moi, je ne sens aucune opposition. Un changement du mode de production agricole.
Mais alors, retrouver le sol, Henri Rouillet d'Orfeuille, je vais me tourner vers vous, parce qu'en fait, on n'a pas d'ordre complètement établi. Henri Rouillet d'Orfeuille, vous êtes membre de l'Académie d'agriculture. Depuis, vous avez été aussi directeur du CIRAD. Vous êtes agronome vous-même. Retrouver le sol, ça paraît un peu du bon sens. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a transformé très souvent donc, l'agriculteur en chimiste avant toute chose. Et maintenant, il redevient quand même agronome de plus en plus.
Oui, je crois qu'il y a des fondamentaux, il y a des vérités. Il y a d'abord le sol, il y a le soleil, il y a tous les éléments, tous les facteurs de production, il y a le travail. Il faut peut-être penser autrement qu'en voulant artificialiser le milieu et adapter le milieu à ce qu'on veut faire, il faut plutôt essayer de s'adapter à lui, parce que d'abord il a fait ses preuves, et puis finalement ça coûte moins cher, c'est plus économe, c'est une école de gestion des ressources naturelles, donc je crois que cette mutation elle est en cours et elle est encore largement à faire.
Alors pourtant, Jean-François Soussana, vous êtes, vous, le directeur scientifique environnement de l'INRA. C'est vrai qu'on a réussi à produire plus pour gagner plus, mais ça ne pouvait être atteint qu'en simplifiant les paysages, en créant des champs d'un seul tenant, en les dévouant à une gamme restreinte de cultures rentables. Les éleveurs ont donc troqué le fourrage pour les tourteaux de soja, par exemple. Les étables sont devenues des hangars plus ou moins obscurs. Alors il faut bien reconnaître que la productivité a triplé en 30 ans. C'est absolument une réalité aujourd'hui. Dans les années 1950, vous aviez une famille, on va dire, nourricière pour une famille et demie qui consommait. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez une famille pour 30 familles qui vont être nourries. Donc ça a été une révolution extraordinaire. Mais là aussi, je veux dire, en ce qui concerne donc, le travail du sol, vous sentez donc une évolution importante ?
Oui, Denis, on a depuis les années 80 eu des améliorations pour réduire les impacts de l'agriculture sur l'environnement. En fait, les idées que l'on avait à l'époque, c'était d'augmenter l'efficience, c'est-à-dire l'efficacité de la production, produire plus avec moins d'intrants. C'était aussi substituer certains aliments du bétail, certaines variétés qui étaient par exemple résistantes à des maladies. Et puis des actions spécifiques, stocker les effluents, les bandes enherbées pour réduire les pollutions par l'azote. Mais maintenant, on se rend compte qu'on est tout de même dans une difficulté qui consiste à produire plus avec ces solutions-là, qui continue à produire des tensions pour l'environnement.
On a l'énergie. De toute façon, quand il faut 2 tonnes de pétrole pour fabriquer 1 tonne d'engrais, il y a un problème, quoi.
Voilà. Et on a cet effet de cisaille avec des coûts qui augmentent, le coût de l'énergie, le coût des intrants, et puis des prix, dans certains cas, qui diminuent. Donc, comment s'en sortir ? C'est trouver d'autres leviers. Et ces leviers, aujourd'hui, on a tendance à les regrouper sous la bannière de l'agroécologie, en disant qu'on peut reconstituer le capital naturel dans les exploitations agricoles, on peut donc augmenter la biodiversité, on peut gérer l'insertion de l'agriculture dans des paysages et dans des territoires, et puis on peut concevoir les grands cycles, le cycle du carbone, de l'azote, du phosphore, alors que par le passé, l'agriculteur ne gérait que la quantité d'engrais qu'il mettait. Donc si vous voulez, c'est ce regard qui est plus systémique, qui regarde l'insertion de l'agriculture dans les paysages, comment elle peut mobiliser la biodiversité et comment elle peut opérer à l'aide des grands cycles naturels qui permettent de retrouver des solutions et de meilleurs compromis agriculture.
Alors, il va falloir quand même des incitations, on s'en doute bien, parce que c'est pas très simple. Moi, je me mets effectivement, enfin, je ne veux pas mettre à la place d'un agriculteur parce que c'est pas mon métier, mais on se doute bien que ces gens-là ont d'énormes contraintes. Ils ont aussi, alors il y en a qui gagnent très bien leur vie, mais enfin, c'est pas la majorité de l'espèce non plus en France. Donc, il va falloir quand même aussi les aider et les inciter à faire cette révolution. C'est pas une goélette, hein, la paysannerie. C'est quand même un grand bateau. Il va falloir du temps pour que ça tourne.
Oui, il faut du temps. Il y a des efforts à engager. Des efforts, par exemple, en matière de formation. Comment aller dans le sens d'une médiation, c'est-à-dire prendre en compte les initiatives que font les agriculteurs et les accompagner plutôt que de donner des recettes toutes faites. C'est un point. Il y a bien sûr tout ce que peut faire la recherche et le développement, et tant à l'INRA, c'est bien dans cette direction que nous nous engageons grâce à un chantier prioritaire sur l'agroécologie. Et puis, il y a effectivement des mesures d'accompagnement au niveau des politiques publiques, et on peut penser que l'action collective devra être renforcée. Il y a maintenant création, grâce à la loi d'orientation agricole, de dispositifs qui permettront une action plus collective au sein de paysages. Et cela, ça peut favoriser tout de même la gestion de l'environnement dans le monde rural.
Alors, ça doit passer, on imagine bien, aussi par la formation dans les lycées agricoles, par aussi les coopératives, par les chambres d'agriculture. C'est aussi tout ça qui est derrière et qui en sert quand même un agriculteur.
Voilà, un agriculteur individuel, finalement, il a beaucoup de contraintes. Il faut que l'ensemble des filières puisse bouger. Et vous voyez que cela questionne le rôle du conseil agricole au plus près de l'agriculteur. Comment, finalement, les coopératives agricoles qui sont aujourd'hui assez largement en charge de ce conseil vont évoluer?
Et qui vont fournir un kit avec à la fois le pesticide, la graine, etc. Et donc on est un peu coincé, quoi, vous voyez.
Donc peuvent-ils faire évoluer leur activité vers du conseil et du service plutôt que de la fourniture d'intrants? C'est vraiment l'une des questions. Et peut-on aussi avoir des méthodes d'aide à la décision, de diagnostic, qui permettent, si vous voulez, de surmonter les difficultés? Les technologies feront partie de cette mutation. On ne pourra pas s'en passer. Par exemple, nous avons à l'INRA des applications sur smartphone ou tablette qui vous permettent de détecter sur le terrain une maladie de la vigne, d'une tomate. Nous avons également des possibilités de diagnostiquer la biodiversité d'un sol avec des kits qui sont de diagnostic génomique. Mmh. Et ça peut être très important pour piloter la fertilité d'un sol. Et puis, on peut penser aussi aux révolutions avec la télédétection, les satellites. C'est déjà amorcé, mais cela ira beaucoup plus loin. On aura prochainement des outils pour avoir, si vous voulez, un suivi de l'indice foliaire, donc de la végétation, du stress hydrique de cette végétation en cours de saison.
Frédéric Danhé, pourquoi aujourd'hui le manichéisme, on va dire le bio d'un côté, le conventionnel de l'autre, ne tient pas? Ça, c'est une façon assez réductrice de présenter les choses.
Non, mais en France, on aime bien le manichéisme, la bipolarisation, oui, du débat. Voilà, c'est conventionnel. L'environnement, le conventionnel est un méchant, le bio est un gentil. Ben, ça ne fonctionne pas parce qu'entre les deux, il y a plein d'adaptations possibles du geste agricole. Moi, pour Quelle France en 2030 et pour le livre sur lequel je suis en train de travailler, je rencontre des agriculteurs qui, par la force des choses, labourent un peu moins profond, font du couvert ce qu'ils ne faisaient plus, replantent des haies ce qu'ils ne faisaient plus, parce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu à partir du moment où ils l'ont perdu. Et puis, ils font leur compte. Vous savez, les engrais, les pesticides, les intrants chimiques, c'est jamais que du gaz ou du pétrole un peu transformé. Et ça coûte de plus en plus cher, et le diesel coûte de plus en plus cher. Je vous donne juste un exemple. J'ai rencontré un agriculteur conventionnel qui, simplement labourant moins profond, a divisé par 2 sa facture de gasoil. Oui. Et donc, il reste au labour moins profond. Et du coup, il s'interroge à d'autres pratiques, regarde un peu ce que font le bio, mais on ne peut pas demander à un agriculteur, tout d'un coup, de passer du tout ou rien dans notre imaginaire collectif. On ne peut pas lui demander de... Il y a aussi cette peur du retour en arrière, qui est largement infondée, mais pour beaucoup d'agriculteurs dits conventionnels, ils n'ont pas envie de se casser le dos 70 heures par semaine comme l'ont fait leurs grands-parents avant la guerre. Voilà, ça va être une adaptation, ça va être, comme le dit le Monde cette semaine, une agriculture de compromis entre toutes les contraintes qui s'ajoutent et s'ajoutent de plus en plus au monde agricole.
C'est-à-dire qu'à défaut de basculer vers le bio, ces paysans pratiquent une agriculture, donc vous le dites, de compromis. C'est le titre, hein, effectivement, du Monde 2. La chimie, c'est presque fini. Éric Birlouet, je vais me tourner vers vous. Vous n'avez pas encore parlé. Vous êtes sociologue et vous faites le lien entre agriculture et alimentation. Dans quelques jours va sortir d'ailleurs aussi un ouvrage. Vous avez été un peu médiateur aux éditions du Muscadier. Faut-il arrêter de manger de la viande ? Voilà. Bon, ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre émission. On voit qu'il y a quand même eu un constat de rupture entre notre assiette et l'agriculture. Alors, le lien était évident, on va dire, il y a 11 000 ans. On va remercier nos ancêtres du côté de la Mésopotamie qui ont commencé donc cette agriculture jusqu'à la fin des années 50 où on connaissait le cochon par son prénom. Hein, c'était à peu près ça.
Voilà. Oui, absolument.
Et alors depuis, donc, que s'est-il passé parce que là, on a beaucoup de gens qui souhaitent, peut-être qu'ils ont une idée un peu idéale, on va dire, du monde agricole aujourd'hui. Quelles sont les représentations qu'on a, quoi ?
Alors c'est vrai qu'on peut faire ce constat d'une rupture entre l'alimentation et l'agriculture et entre les populations non agricoles et les populations agricoles, avec beaucoup de fantasmes, d'idéalisation, de paradis perdus, etc. Il y a une enquête qui est intéressante, qui a été réalisée par des médecins au printemps dernier en région PACA, et qui montre qu'un enfant sur trois aujourd'hui est incapable d'identifier un légume aussi commun que le poireau ou la courgette. On leur a présenté des dessins, ils devaient simplement indiquer le nom du légume. S'ils le reconnaissaient, un sur trois ne reconnaît donc pas les poireaux. Et quand on demande aux enfants de quoi sont constituées les pâtes alimentaires, les trois quarts d'entre eux ne sont pas capables de dire qu'elles sont confectionnées à base de céréales.
Il n'y a pas de Nutella,
alors,
non ?
Ah bon, peut paraître finalement assez anecdotique ou assez anodin. Et en même temps, il y a une autre enquête récemment publiée qui montre que la moitié des Français, 50% exactement, disent « j'ai le sentiment souvent ou très souvent de ne plus connaître ce que je mange, de ne plus connaître la composition de mes produits ». Là encore, ça peut paraître assez anecdotique comme remarque, mais c'est en réalité très important parce que nous, les mangeurs, eh bien, nous fonctionnons avec une croyance qui est inconsciente, qui est éternelle et qui est universelle, qu'on appelle le principe d'incorporation. C'est-à-dire que nous
pensons... Je suis ce que je mange.
Exactement, nous sommes ce que nous mangeons. Et à partir du moment où nous ne savons plus ce que nous mangeons, on comprend bien que, eh bien, il y aura un malaise identitaire, je ne sais plus qui je suis. Et on voit bien d'ailleurs que, tout à l'heure on vous l'évoquait rapidement, il y a aujourd'hui, depuis quelques années, ce besoin de revenir à ses fondamentaux, ce besoin de retrouver les modes de production agricole, de les comprendre, de les connaître.
D'autant, pardonnez-moi Éric Birlouet, c'est que 85% des dépenses alimentaires que nous faisons ont fait un détour dans une usine.
Alors voilà, et ça c'est une autre explication. Ce qui explique finalement cette rupture, c'est d'une part, bien évidemment, l'urbanisation de la société française. Aujourd'hui, vous avez seulement deux Français sur dix qui vivent dans une zone rurale. En 1936, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la moitié des Français. Et surtout, aujourd'hui, tout le monde le sait, les agriculteurs ne représentent plus, enfin les actifs agricoles ne représentent plus que 3% de la population, et les chefs d'exploitation, un actif sur 100. Et parallèlement à cela, il y a eu ce que vous évoquiez, 85% de nos dépenses alimentaires, selon l'INSEE, sont faites pour des produits industriels. Ils sont passés par une usine. L'usine, c'est une boîte noire. On sait ce qu'il en sort, on ne sait pas ce qu'il y rentre, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, on a peur. Et on voit se développer l'inquiétude vis-à-vis de l'alimentation à cause de ces évolutions et de cette rupture du lien qui était évident encore hier entre l'alimentation et l'agriculture, entre les Français et leurs agriculteurs.
Voilà, d'où le titre de Marianne, Malbouffe, mal manger, comment y échapper. Donc on va voir aussi qu'il y a plein de solutions, ce qui nous intéresse bien dans cette émission. Ce sera juste après notre première pause musicale. Oui, je me tourne vers Christophe Imbert et nos amis. Voici Nick Waterhouse, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur.
Get up. rappelle, mais ça fait trois fois que je paye le téléphone et l'électricité.
C'est moi qui ramène la bouffe.
Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques.
Et alors?
Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Oh bah oui, on se calme, donc on est là en train de parler d'agriculture, on balaye pas tous les sujets, c'est évidemment impossible. Je vous renvoie aussi, tenez, à propos d'agroécologie, au dossier très bien fait de Lacroix ce week-end, signé Séverin Husson, les petits pas de l'agroécologie, on va pouvoir y revenir. D'ailleurs aussi avec vous, Henri Rouillet-Dorfeuille, je le rappelle, membre de l'Académie de l'agriculture, et puis vous êtes en charge cette année de cette mission donc, qui vous a été confiée par le ministère de la Coopération et de l'Agriculture. Vous êtes chargé d'animer l'année de l'agriculture familiale. On est en 2014, c'est aussi un grand programme de la FAO, des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ça vient d'où en fait cette idée? Et puis on va te donner une définition de l'agriculture familiale, parce qu'on a un peu le sentiment qu'il y a beaucoup d'agriculture familiale en définitive.
Oui, enfin, ça vient en fait de la crise de 2008-2009 où on a observé des mouvements assez spéculatifs sur les terres avec des histoires d'accaparement, notamment dans les pays du Sud, bien sûr, mais aussi sur les marchés. Et donc, il y a eu une vraie menace et une crainte que ça provoque des exclusions paysannes en masse, hein, puisque si vous prenez 10 000 hectares, ça fait 10 000 exploitations d'un hectare qui peuvent disparaître et 10 000 familles. Puisque la moyenne en Inde, si vous voulez, c'est la moyenne 50% des exploitations ont moins d'un hectare et 80% moins de 2 hectares.
Ça veut dire qu'après, ces personnes-là vont les remplir des bidonvilles.
Ben, c'est-à-dire qu'après, c'est le problème, ce n'est pas tellement qu'il y ait 3%, on le voit chez nous, de paysans dans la population. C'est que quand on est en Afrique à 65% et en Inde 55%, c'est que s'il doit y avoir des départs, ces départs vont nulle part parce que il y a déjà 1 milliard de personnes. Il nous manque 1 milliard d'emplois aujourd'hui dans le monde. Et donc, il y a 1 milliard de personnes qui ne demandent qu'à rentrer dans l'économie quelque part. Et donc, si on en remet 2,5 milliards de plus qui sortent des campagnes, ça crée une situation dramatique pour les familles, mais aussi intolérable et intenable pour le monde. Et donc, un certain nombre d'ONG, d'organisations de producteurs, au sortir de cette crise, se sont alarmés et ont émis l'idée qu'il fallait absolument se manifester et manifester ce qui pouvait être une contre-attaque contre, je dirais, l'entreprise agricole de production, ce qui est quand même un phénomène assez rare, mais qui, dans ces périodes où les prix ont monté, était menaçant. Et en face de ces entreprises, il y a l'exploitation familiale agricole, finalement, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres alternatives. Les fermes d'État sont mortes, piteusement. Et donc il y a eu ce mouvement pour essayer de ressortir, alors que c'est la 90% de l'agriculture est faite d'exploitation familiale, mais ça avait tendance à être devenu une sorte d'archaïsme qui était fait pour disparaître. Et donc on a ressorti et il y a eu une campagne avec des mouvements très nombreux. Finalement, le gouvernement des Philippines a repris le relais et a dit on va mettre ça dans le débat intergouvernemental. Et donc il y a eu un vote de l'ONU pour dire en 2014, il y aura l'année de l'agriculture familiale. Et donc c'est une manière de rendre hommage aux paysans du monde. Et ensuite, c'est une manière de dire attendez, c'est pas un archaïsme, ça reste un projet d'avenir.
Alors, ça veut pas dire. Parce que, pardonnez-moi, mais on est quand même face à l'entrepreneuriat à capitaux qui va acheter des terres, qui va spéculer dessus. C'est ça aussi qui est derrière.
Ben, ça, c'est la bagarre. C'est pour ça que l'agriculture familiale, c'est un assez bon concept, parce que c'est effectivement ce qu'il y a en face de l'entreprise à capitaux externes, à salariat. Mais c'est une bagarre d'abord d'idées, hein, puisque dans les grands prescripteurs internationaux comme la Banque mondiale ou un certain nombre de grands pays, effectivement, on a tendance à mépriser, à dédaigner cette forme d'agriculture familiale qu'on essaye de considérer comme une solution du passé. Mais si vous voulez, si vous regardez les chiffres, donc c'est plus de 90% des agriculteurs sont dans les exploitations familiales. C'est 70% de la consommation mondiale. C'est donc 90% de l'emploi. Et c'est une bonne partie, la très grande majorité, de la gestion des ressources naturelles qui est dans ce modèle-là. Et donc on essaye. Alors ça ne veut pas dire qu'on va célébrer l'agriculture familiale comme religieusement ou idéologiquement. Ça veut dire que ça nous paraît être finalement un bon moyen pour affronter les défis qui sont alimenter une planète, une humanité de 9 milliards de personnes, gérer les ressources naturelles et surtout créer de l'emploi et distribuer des revenus.
Et ce qui est aussi donc tout à fait intéressant, c'est que on constate que vous avez dans les enjeux, pour les résumer, il y a l'autosuffisance, il y a dégager un revenu, il y a éviter l'exode rural, qui aussi l'on disait les bidonvilles, l'insécurité qui est derrière, donc toutes sortes de choses qu'a priori ne fait pas l'agriculture familiale.
Voilà, c'est-à-dire c'est une renaissance aussi de la multifonctionnalité de l'agriculture. Hein, c'est un concept qui a été très battu en brèche aussi au niveau international. Mais qui est essentiel. Et je pense que... Alors l'autosuffisance, c'est vrai, notamment en Afrique, par exemple. Le premier indicateur, c'est de savoir le pourcentage d'autoconsommation qui est possible dans les exploitations. Et assez peu d'exploitations en Afrique, par exemple, garantissent 100% de l'alimentation de la famille. Voyez, mais chez nous, bon, on a un peu dépassé ce stade, évidemment, de l'autoconsommation. Donc, on n'est pas braqué sur des. Et puis, il y a une grande diversité mondiale. Oui. La problématique de l'agriculture en Afrique et chez nous est assez différente. Mais le modèle familial, dans l'histoire et la nôtre notamment, a montré qu'on pouvait se moderniser, on pouvait se capitaliser, on pouvait se développer, on pouvait cultiver des grandes surfaces. Dans un modèle familial.
Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, Éric Birlouet, je me retourne vers vous, donc je le rappelle, sociologue, vous faites bien le lien entre l'agriculture et l'alimentation, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même sacrément des évolutions. Vous me rappeliez que 21% des exploitations agricoles françaises, donc là, on quitte le monde et on revient sur la France, pratiquent la vente en circuit court. Alors, on connaît bien les AMAP aujourd'hui, bien sûr, qui sont popularisés, mais pas que ça.
Oui, absolument. Alors 21%, une exploitation sur 5, donc c'est pas du tout un petit phénomène. Alors bien évidemment, c'est d'abord des petites exploitations qui pratiquent la vente directe.
C'est pas les 300 hectares.
C'est la moitié des producteurs de légumes, c'est la moitié des producteurs de miel, c'est un producteur de fruits sur 4 qui aujourd'hui est dans une démarche de circuit court. Alors les circuits courts, c'est évidemment la vente à la ferme en premier lieu, mais c'est également d'autres systèmes. Je vends à un commerçant détaillant, un seul intermédiaire, c'est considéré comme un circuit court. Les AMAP, la cueillette à la ferme, la vente par Internet, etc. Et c'est quelque chose qui, en tout cas, est très apprécié par le consommateur parce qu'il y trouve, encore une fois, de la réassurance. Ça lui permet de rétablir un lien avec l'origine de ses aliments. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant. Quand on demande aux gens quels sont les aliments que vous aimeriez manger, les gens répondent ce sont des produits naturels. Et quand on leur demande qu'est-ce que c'est un produit naturel, certains d'entre eux disent quelque chose qui n'a rien à voir. Ils disent, pour moi, un produit naturel, c'est quand je connais la personne qui l'a produit.
Ah, intéressant. Voilà. Oui, et effectivement, donc, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Oui. Mais ça montre bien la force de ce lien et de ce besoin de retrouver donc cette connexion avec son environnement, avec l'origine, et retrouver le sens des choses et des aliments en particulier.
Alors qu'est-ce que l'on constate quand même aujourd'hui, c'est qu'en fait les consommateurs que nous sommes sont prêts à payer un aliment qui offre un bénéfice pour la santé, mais ils ne semblent pas encore disposés à le faire pour un produit qui respecte l'environnement. C'est-à-dire que si on prend par exemple un cochon on va dire sans antibiotiques, on est prêt à mettre un peu plus cher, mais un cochon on va vous dire oui, mais on a travaillé le lisier qui a été traité pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. C'est pas encore
tout à fait rentré dans les mœurs. En fait, ce que considèrent les consommateurs, c'est que la sécurité alimentaire, ça va de soi. C'est un dû, on n'a pas à payer plus cher pour ça. Et ensuite, on a des demandes sur lesquelles certaines personnes sont prêtes à payer. Là, on parlait des circuits courts, donc cette notion de proximité du produit. Là, les gens qui sont dans des démarches de circuits courts peuvent parfois accepter de payer un peu plus cher parce que c'est du bio, parce que c'est un soutien à une forme d'agriculture familiale, là, pour le coup, comme on venait d'en parler.
La clé, alors, changement d'attitude, évidemment, des agriculteurs, ce qui n'est pas forcément simple, on le comprend, mais aussi changement d'attitude de notre part, parce qu'on est quand même gentiment schizophrène à vouloir des prix pas chers, je ne sais pas, Frédéric Danhé, aujourd'hui, et puis on veut un peu tout et son contraire.
On veut tout et son contraire, et on confond sécurité alimentaire et qualité nutritionnelle. Or, l'un ne va... Enfin, c'est un peu contradictoire. Si vous voulez une sécurité alimentaire absolue, vous hygiénisez. le processus. Autrement dit, vous faites entrer les produits agricoles de base dans un process industriel qui va les priver d'un certain nombre de leurs qualités nutritionnelles. Et on le voit au rapport, j'entre pas dans le détail, entre oméga 6 et oméga 3. Le bon, c'est plutôt l'oméga 3. Le mauvais, c'est plutôt l'oméga 6. Et le rapport éponge de plus en plus vers l'oméga 6. Les qualités nutritionnelles diminuent, mais on est content parce que il n'y a pas de catastrophe sanitaire, il n'y a pas de catastrophe alimentaire. Vous savez, en France, dès qu'il y a 2, 3 cas de listériose, c'est une catastrophe, on pond un règlement. Et ça ne profite qu'à l'industrialisation de l'alimentation. Ça ne profite qu'aux groupes alimentaires qui sont les seuls à avoir les moyens d'appliquer les nouvelles réglementations parce que tout ça coûte très cher. Donc c'est un peu paradoxal, on privilégie la sécurité alimentaire. Mais ça ne va pas forcément dans le sens de l'agriculture familiale. Ça, c'est une certitude. 85% la DIRIC des produits passent par un atelier, passent par une usine, justement pour répondre à ces objectifs plus ou moins fantasmés de sécurité alimentaire. Mais ça n'a rien à voir avec le goût et les qualités nutritionnelles.
Éric Bialouez, puis après Henri Gouillet-Dorfeuille.
Tout à fait d'accord. Alors, heureusement que les Français ne sont pas aussi fanatiques de l'hygiène que les services vétérinaires. Ils font leur boulot, mais heureusement que nous avons une culture alimentaire qui fait que nous considérons, nous les Français, que l'alimentation, ça n'est pas que de la nutrition, ça n'est pas que de la santé, ça n'est pas que de la sécurité et de l'hygiène. L'alimentation, c'est avant tout un plaisir et c'est un lien social et c'est pas par hasard que le repas gastronomique des Français a été au patrimoine immatériel culturel de l'humanité en 2010.
C'est vrai, ainsi que la corrida, mais ça c'est encore autre chose. Jean-François Soussana, directeur scientifique de l'environnement de l'INRA.
Oui, il faut rappeler que la France a effectivement ces traditions qui sont fortes et qui nous permettent d'avoir toujours aujourd'hui une grande part de nos produits qui sont sous signe de qualité. Avec un cahier des charges de production, des différenciations, on reste le pays où vous pouvez manger un fromage différent tous les jours. Donc c'est une caractéristique qu'il ne faut pas négliger par rapport à d'autres modèles agricoles qui ont été nettement plus industrialisés que les nôtres.
Henri Rouillet-Dorfeuille.
Oui, je crois que l'évolution de la demande alimentaire est le vrai moteur de transformation de l'agriculture. Je veux dire, c'est évidemment la demande qui va déterminer un petit peu l'offre. Et je crois qu'il est très important de pouvoir reconnaître la valeur sociale et la valeur environnementale d'un produit qui n'est pas apparente, comme vous le disiez. Je veux dire, on ne peut pas savoir quand on a une tomate si elle a polluer les nappes phréatiques ou pas en la produisant. Et donc, il faut pouvoir identifier les produits. C'est pour ça que le contact avec l'agriculteur est une chose positive. Mais c'est pour ça aussi qu'on a tous ces labels, ces signes de qualité qui font qu'on peut reconnaître le produit. Et quand le produit est identifié, il n'y a pas seulement le consommateur, il y a une notion d'intérêt général. Et donc, il faut que les politiques publiques aussi orientent un petit peu la consommation et la production. Parce qu'effectivement, pourquoi payer plus cher pour quelque chose qui ne concerne pas l'individu, mais qui concerne le collectif ? Donc, toutes les politiques publiques doivent orienter...
Commencer par la PAC.
Dans des systèmes qui sont à la fois agroalimentaires, tout ensemble, voyez.
Ce que vous lui dites, c'est que tant qu'on est prêt à bouffer, comme dirait Jean-Pierre, que bouffer de la merde pas chère qui vient de l'autre bout du monde, rien ne bougera, quoi. C'est un peu ça.
Ah ben ça, non, ça bouge au sens où ça conforte des produits qui sont pas identifiés, qui sont produits en masse, qui viennent de n'importe où et qui sont sains effectivement au sens de la médecine. Mais alors ça, c'est une grosse bagarre internationale parce que l'OMC interdit grosso modo l'identification des produits.
Oui. L'Organisation mondiale du commerce.
L'Organisation mondiale du commerce, c'est un enjeu de la négociation internationale.
Liberté et invisibilité.
À part le vin et en partie le fromage, si vous voulez, ils n'acceptent pas qu'on puisse identifier les produits. Alors évidemment, ça ne fait que de développer une production de masse, une demande de masse qui a les conséquences que l'on connaît, c'est-à-dire des dégradations environnementales et des problèmes sociaux derrière.
Ben c'est pour ça qu'on pose un peu les problèmes, qu'on est là de toute façon pour résister merveilleusement ici dans ce salon de l'agriculture. Et je vous propose d'écouter un petit couplet délicieux, à la fois signé Juliette et François Morel sur la grande distribution.
Un jour que le temps était sec et dégagé les nues, c'est Jean-Marie de Kervadec, revenant de la morue, qui s'écrit sans salam aleik. Hardi petit monte à la misaine, hardi petit et vire au guindeau, C'est Jean-Marie de Kervadec, revenant de la morue, qui s'écrit sans salam alec. Je m'en vais au Super U.
Je m'en vais au Super U.
Soisic reconnaît plus son mec, elle en a la berlue. C'est la chérie qui vit avec, elle en tombe des nues. Joyeuse, elle répond aussi sec. Hardy petit monte à la misaine, hardy petit et vire au guindeau. C'est la chérie qui vit avec, elle en tombe des nues. Joyeuse, elle répond aussi sec. Va donc au Super U.
Va donc au Super U.
Achète du beurre, des gâteaux secs et puis des figolus. Pour la vaisselle, il faut du pec, citron, du jambon cru, du lait ribot, du flan, du cake.
Hardy petit monte à la misaine, hardy petit et vire au guindeau.
Pour la vaisselle, il faut du pec, citron, du jambon cru, du lait ribot, du flan, du cake et puis du papier cul.
Et puis du papier cul.
D'autant qu'à manger, il y a l'évêque et son neveu Lulu. Il préfère les filets de rhum steak aux filets de merlu. Le soir, on regardera Star Trek.
Hardy petit monte à la misaine, hardy petit et vire au gâteau.
Il préfère les filets de rhum steak aux filets de merlu. Le soir, on regardera Star Trek sur le divan tout nu.
Sur le divan.
Mais Jean-Marie de Kervadec, malheur, où donc es-tu? Il est au bar buvant cul sec, juste au coin de la rue. Il y dépense tous ses copecs.
Hardy petit, monte à la misaine, hardy petit, viro-gâteau.
Il est au bar buvant cul sec, juste au coin de la rue.
C'est joli
le moine comme prénom. Va-t'en te faire voir chez les Grecs, sois-y qu'est fort déçu. Tu n'es qu'un ivrogne, un plan bec, un buveur dissolu. Arrête de boire, fais donc un break.
Hardy petit, monte à la misère. Hardy petit, et vire au guindeau.
Tu n'es qu'un ivrogne, un plan bec, un buveur dissolu. Arrête de boire, fais donc un break, sinon tu seras mouru.
Sinon tu seras mouru.
Ce fut un lamentable échec, ce projet Super U. Chez Jean-Marie de Kervadec, il n'y a plus de jambon cru, de lait ribot, de flan, de cake. Hardy petit monte à la misaine, hardy petit et vire au guindeau. Chez Jean-Marie de Kervadec, il n'y a plus de jambon cru, de lait ribot, de flan, de cake et plus de papier cul.
Gîte rural, tiens. Voilà un métier d'avenir pour les agriculteurs.
Maman,
viens. La PAC, ça fait 40 ans que ça dure. Et ça fait 40 ans que les petits se font bouffer.
C'est très bien, chérie.
Bientôt, pour élever des vaches, il faudra faire l'école hôtelière.
Allez, on y va.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Voilà, et donc après cette chanson, Jean-Marie de Kervadec, qui nous semblait quand même pas trop mal dans le, par rapport aux propos que nous développons donc les uns les autres, signé Juliette et l'ami François. Tu étais très bien dans ce texte, cher François Morel. Frédéric Noé, donc peut-être, alors je peux peut-être au cours de notre débat là, donc un peu de réaction peut-être, avant que nous nous lancions sur un autre sujet qui nous tient à cœur aussi.
Mais le sens de l'histoire, il est bien dans ce que l'on a dit, une agriculture plus au sol, pour résumer, une agriculture qui redevient familial, sauf qu'il y a quand même des facteurs qui jouent à l'envers. L'agriculture familiale, elle est menacée parce que des économistes appellent l'agriculture dite de firme, une agriculture totalement intégrée dans l'agroalimentaire qui ne fournirait plus ni maïs ni blé, mais des molécules, du saccharose par exemple. Voilà, on ne fournirait que des molécules, des grands machins comme savent le faire les Américains ou les Australiens. Et la tendance, elle est un peu démontrée par cette peur qu'ont les syndicats agricoles, cette peur qu'ont les agriculteurs de l'accaparement des terres. Et là, je fais un lien avec le Sud. Nord-Sud, les agriculteurs sont un peu confrontés à la même chose aujourd'hui en France. C'est-à-dire que on s'inquiète, on s'interroge de savoir, de constater que une propriété, une exploitation, passe pas dans les mains des enfants parce que le foncier est trop cher ou parce que les enfants n'en ont pas envie. Et les terres sont achetées par des groupes financiers, les terres sont achetées par des industriels, parfois de l'étranger. Donc ce qu'on voit aujourd'hui à Madagascar en Afrique, avec des terres achetées par le Qatar par exemple, pourrait advenir en France. Mmh. C'est une inquiétude. Voilà, on est juste au début, mais ça pourrait arriver. Et puis derrière ça, il y a le problème des prix, on l'a dit. Cette agriculture familiale a besoin de vivre. Et pour vivre, ben, il faut lui payer le juste prix de ce qu'elle produit. Oui. Eric a dit tout à l'heure 85% des produits passaient par l'usine. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une grande partie de la valeur fabriquée, la valeur monétaire fabriquée par les agriculteurs qui est captée par d'autres, en grande partie par la grande distribution. Et tant que les agriculteurs n'auront pas un prix décent pour ce qu'ils produisent, on ne voit pas comment cette agriculture familiale pourra subvenir. Les agriculteurs, ils n'ont pas envie de subventions. Ils n'ont pas envie d'étanchéder, d'être considérés de fait comme des fonctionnaires européens. Leur dignité, elle est au-dessus de ça. Leur dignité, c'est que le consommateur leur achète le vrai prix. Mais pour que le consommateur leur achète le prix de cette schizophrénie, hein, sécurité alimentaire et qualité nutritionnelle, voire environnementale, ça va pas pouvoir se faire facilement avec une grande distribution qui joue là-dessus de façon un peu méprisante. Si tu es pauvre, ben forcément, on va te vendre des produits merdiques parce que ça coûte moins cher. Tant qu'on n'aura pas réglé ce hiatus, cette agriculture familiale ne pourra pas survivre très longtemps, hormis par des subventions qui ne sont pas très honorables pour elles.
Oui, et puis qu'à un moment, vont trouver effectivement leur limite. Alors, il y a un autre sujet, Jean-François Soussana, je le rappelle, vous êtes directeur scientifique environnement, donc à l'INRA. C'est l'impact du changement climatique aussi, et du cycle du carbone, sur l'agriculture. Alors, on a coutume de dire que c'est à peu près l'agriculture, 18% des rejets de gaz à effet de serre, tout compris. Il y a beaucoup de méthane lorsque l'on parle évidemment d'élevage. Mais donc, où en est-on? Parce que, l'émission donc, s'appelle CO2 Mon Amour, donc c'est bien d'avoir un petit focus quand même sur ce thème-là, s'il vous plaît.
Alors oui, l'agriculture rejette des gaz à effet de serre. Elle peut aussi stocker du carbone dans la matière organique des sols. Donc tout n'est pas négatif.
Bien sûr.
Et nous avons...
Rendez-moi, juste pour dire pour nos amis, elle le rejette de quelle manière? Donc nous avons d'un côté l'élevage avec le méthane, donc de nos bovidés, de nos ruminants. Voilà. Donc d'un côté, il y a du méthane qui sort. Puis de l'autre côté, du côté des fesses, c'est du CO2 qui sort. On va faire très simple.
Vous avez effectivement le CO2 qui peut être utilisé pour les énergies fossiles, pour les tracteurs, par exemple. Et puis vous avez un gaz à effet de serre qui est puissant, qui est le protoxyde d'azote, qui est émis à partir des sols agricoles fertilisés. Mais d'un autre côté, vous pouvez stocker du carbone dans la matière organique des sols comme vous pouvez en stocker dans les forêts. Et justement, lorsque l'on s'oriente vers l'agroécologie, on voit que l'on aurait des options qui seraient intéressantes pour restocker du carbone dans les sols, dans les prairies permanentes, peut-être aussi en agroforesterie. Et l'on a des solutions.
L'agroforesterie, c'est le mariage à la fois de la culture et des forêts, on va dire, des arbres.
Donc imaginez une parcelle agricole dans laquelle vous avez des rangées d'arbres espacées. Et puis finalement, vous pouvez combiner une production à partir des cultures et puis bien des années après, la récolte de ces arbres pour les commercialiser, pour commercialiser le bois. Mais si l'on revient sur l'effet de serre, nous avons conduit une étude qui a permis de montrer que 10 mesures permettraient de réduire de manière assez importante les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture française. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines de ces mesures seraient même avec un coût négatif, ce qui veut dire qu'il y aurait un bénéfice associé. Pourquoi ? Parce qu'elles reviennent à faire des économies sur des intrants, par exemple en gérant mieux la fertilisation. Vous pourriez tout simplement émettre moins de ce protoxyde d'azote qui contribue tant à l'effet de serre. De même, vous pouvez allonger la durée du pâturage. C'est quelque chose qui peut avoir un bénéfice
Alors,
économique.
Pourquoi justement, Jean-François Soussana, la prairie est si importante? Parce que jusqu'à présent, on ne l'avait pas forcément identifiée comme étant un puits de carbone. On pense naturellement aux forêts boréales d'abord, les forêts tempérées. On pense aux tourbières qui sont évidemment des capteurs de carbone, mais aux océans aussi. Mais les prairies aussi, c'est très important.
Oui, alors effectivement, on a déployé depuis une dizaine d'années des mesures des flux de CO2 qui sont échangés entre les écosystèmes et l'atmosphère sur toute l'Europe. Et on s'est rendu compte à cette occasion que les prairies avaient un puits de carbone au niveau de leur sol qui était équivalent à celui des sols forestiers. Alors les forêts, en plus, ont le stockage de carbone dans le bois. C'est quelque chose qui est plus important, bien sûr. Et à partir de là, ça change un petit peu le regard qu'on peut avoir sur les prairies. Elles ont des stocks de carbone importants. Cela change aussi le regard sur l'élevage, puisque finalement, ce stockage de carbone dans les sols, vous pouvez imaginer qu'il vienne compenser, en partie au moins, les émissions de méthane des bovins. Donc cela améliore la balance en gaz à effet de serre de l'élevage herbager. qui serait finalement un petit peu moins mauvaise que ce que l'on avait imaginé au départ.
Voilà, donc là aussi, c'est assez récent qu'on a découvert ça, il n'y a pas tellement longtemps en fait.
Oui, c'est sur un pas de temps d'une dizaine d'années à peu près.
Oui, donc Henri Rouillet d'Orfeuille, moi je reviens quand même sur cette agriculture familiale. Ça va être quoi demain? Vous allez vers quel horizon? Et puis vous lancez aussi un concours de personnes, ça c'est très important.
Oui, alors on va d'abord cette année soutenir de très nombreuses initiatives, il y en a plusieurs centaines. De différents acteurs qui d'une manière ou d'une autre vont aborder cette question, ça peut être des conférences, des expositions, et effectivement parfois des concours pour primer des innovations ou des innovateurs qui apportent des solutions nouvelles justement, parce qu'il faut avancer, hein, c'est pas, on regarde pas dans le rétroviseur, de toute façon c'est devant que ça se passe. Voilà, donc on va faire tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un débat international. Les questions qu'on traite sont très internationales. Je pense qu'en France, il n'y a pas énormément de problèmes d'agriculture familiale. Je veux dire, il y a effectivement des questions d'intégration des exploitations dans des industries d'aval, mais rien à voir avec ce qui se passe dans les pays du Sud. On a fait notre transition agro-démographique, je dirais, on est 3% ou un peu moins. C'est rien à voir avec ce qui se passe dans les pays du Sud au point de vue risque d'hémorragie paysanne. Voilà. Alors ce qu'on veut, c'est moi je dirais qu'il y a trois grands objectifs. Le premier, c'est d'abord de lutter contre le mépris, le dédain, et notamment, on sent pas ça trop chez nous parce que les agriculteurs ont pris le pouvoir agricole, je dirais. Mais quand vous êtes en Afrique, par exemple, vous êtes face à un paradoxe, c'est que les gouvernements méprisent ou dédaignent 65% de leur population, ce qui est quand même incroyable, oui, sur le plan démocratique. Donc il faut lutter contre cette culture, ce mépris, parce que de toute façon, l'avenir de l'agriculture est un avenir d'agriculture familiale. Je veux dire, on ne peut pas imaginer autre chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est et ça, les chercheurs interviennent plus sur ce point-là, c'est d'analyser la compétitivité relative ou les avantages ou désavantages comparatifs entre cette forme d'agriculture et les autres, et essentiellement l'entreprise. Bon, personnellement, j'ai la conviction que pratiquement dans tous les domaines, particulièrement sur la question de l'emploi et sur la question de gestion des ressources naturelles, les formes d'agriculture familiale sont préférables, ne serait-ce que parce qu'il faut transmettre un patrimoine à ses enfants et qu'il ne faut pas le dégrader. Et puis le troisième point qui est très important se situe au niveau des politiques publiques et des accords internationaux pour que on soit dans un environnement favorable pour que les agricultures familiales puissent exprimer leur potentiel, ce qu'elles ne peuvent pas faire si elles sont dans un système de paupérisation, un processus de paupérisation. Vous parliez des prix agricoles. C'est clair que nous, on peut subventionner nos agriculteurs. C'est pas possible en Afrique ou ailleurs. Et donc, la question des prix est encore plus importante pour eux. On les maintient dans la limite,
oui,
de survie.
Donnez-moi une petite question, rapidement. Est-ce qu'on a besoin d'une agriculture pour exporter des produits qui ne sont pas de gamme, comme on le fait très souvent en Afrique avec du lait en poudre ou bien du poulet industriel? Et nous-mêmes, de notre côté, on importe les deux tiers de nos protéines végétales qui sont nécessaires à l'alimentation animale. Donc,
qu'il faut reterritorialiser l'agriculture. C'était le point de départ de cette émission. On parlait des sols. Il faut qu'elle soit territorialisée. Alors, à différentes échelles, c'est pas seulement au niveau de l'exploitation familiale, c'est au niveau... nous, on étudie les politiques régionales des régions en France. Naturellement, les régions pensent à leur territoire, à leur environnement, à leur emploi, quand ils pensent à leur agriculture.
Jean-François Soussana.
Oui, pour les prix, il y a cette dimension du changement climatique dont nous avons parlé déjà. Ce que l'on observe au niveau mondial, c'est que par rapport à une production attendue, si le climat n'avait pas changé, depuis les années 1980, nous avons vraisemblablement eu une réduction du rendement moyen au niveau mondial du blé de 5,5%. Et les projections pour l'avenir nous montrent que on aura des impacts du changement climatique qui peuvent être extrêmement élevés. avec des réductions de production s'il n'y avait pas d'adaptation de l'ordre de 20% ou de 30%, au moins dans les régions subtropicales. À partir de là, vous imaginez assez facilement, et des modèles l'ont montré, que les prix agricoles pourraient remonter et que cela s'accompagnerait d'une augmentation de l'insécurité alimentaire. Mmh. Cela frapperait encore plus directement les agriculteurs et les petits éleveurs en zone sèche. C'est là qu'il y a une incidence directe avec des famines, avec une accélération de la pauvreté. Donc ce phénomène est menaçant et il se traduit d'ores et déjà en France par une tendance à une augmentation des extrêmes climatiques, oui. Qu'il s'agisse de sécheresse, qu'il s'agisse d'inondations, on l'a vu ces dernières semaines. Et nous pouvons dire que la décennie 2000-2010 a d'ores et déjà été une décennie des extrêmes. En 2003, en 2010 et en 2011.
Ça va être quoi ? On va dire, on a déjà commencé à en parler, mais on va dire la France agricole de demain, où cette agriculture va être absolument indispensable pour qu'il y ait une espèce de résilience des territoires. Ça va être une agriculture qui va avoir besoin de plus de place alors qu'on urbanise de plus en plus. Qu'est-ce que ça va être ?
Je pense que ça va être la clé de voûte de notre avenir et la clé de voûte de notre adaptation au changement climatique. Henri l'a dit, c'est une agriculture territoriale. Il y aura toujours une agriculture conventionnelle, une agriculture de firme qui ne fournira plus que des molécules. Voilà. Ça, elle existera toujours. Par contre, le reste de la France, pour toutes les raisons qu'on a dit, une agriculture qui revient au sol, c'est une agriculture qui se soumet à nouveau aux contraintes agronomiques, aux contraintes climatiques, aux contraintes de la vie, aux aléas naturels. Donc c'est une agriculture qui sera nettement plus diverse, qui utilisera plus ou moins de chimie, plus ou moins de travail du sol. C'est une agriculture donc beaucoup plus diverse, qui va demander des connaissances agronomiques qui sont un peu... d'un point de vue technique aussi complexe.
Avec des semences locales qui pourront s'adapter, résister beaucoup mieux et non pas avoir les mêmes semences du nord au sud et de l'est à l'ouest.
Exactement. En tout cas, vous l'avez dit, Denis, c'est une agriculture qui va demander plus de place parce qu'on va lui demander beaucoup plus de choses. On va lui demander de replanter des haies, on va lui demander de produire des choses différentes. Et ça va contraindre littéralement l'étalement urbain. Finalement, ça va devenir l'outil favori pour les élus pour faire ce qu'ils n'osent pas faire, c'est-à-dire lutter contre l'étalement urbain. L'avenir, c'est un peu l'agriculture.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus donc ici sur le stand de la Mutuelle Sociale Agricole en direct du Salon de l'Agriculture. Merci à Pascal Vestrelin, Stéphane Poitvin, Philippe Etienne, je n'oublierai pas Roland Dandalex et Véronique Lesage pour l'organisation. Merci à Albert Houck, à Aude-Émilie Judaïque, à Christophe Imbert qui réalisait l'émission, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2. Allez-y, n'hésitez pas à converser, franceinter.fr hein, sur le site, le podcast, vous connaissez. Vivre avec les bêtes d'Alain Bougrain-Dubourg, ce sera demain à 15h, donc là ça va être des bêtes, non il ne doit pas être au salon. L'Atu du Mont-Petit-Loup, ce sera demain à 19h54 et dans quelques instants, ce sera la librairie francophone d'Emmanuel Kérad. Je vous souhaite un excellent week-end.